7h04, bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. Merci à l'équipe de Down on the Range qui nous a accompagnés de 6h à 7h. Et voilà, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. Bonjour Bruno.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue en ce samedi matin.
Alors, bienvenue à l'émission Afrique Plus. Nous sommes là 60 minutes en Afrique, 60 minutes, nous sommes africains. Alors, l'introduction ce matin de notre émission, on commence comme ça. Mandela a 90 ans hier. Il a eu 90 ans hier, qui était le 18 juillet 2008. Alors, et comme l'écrit la Berliner Zeitung, il n'est plus un terroriste pour les États-Unis. Le 89e anniversaire de l'un des plus grands dirigeants politiques du monde, George Bush, pour cet anniversaire, George Bush a bien voulu se montrer généreux. Il a signé un décret selon lequel Nelson Mandela n'est plus à considérer comme un terroriste. Dans les années 80, il faut le rappeler, le gouvernement américain avait inscrit l'ANC, le Congrès national africain, sur la liste des organisations terroristes. L'inscription avait été ensuite radiée, mais les membres de l'ANC continuaient à figurer sur la liste. Pour chaque voyage aux États-Unis de Mandela, il avait besoin d'une autorisation spéciale du département d'État américain. Le monde entier souligne encore la Berliner Zeitung respecte Mandela comme un homme de paix et de réconciliation. Mais aux yeux de Washington, il demeurait plus important que Mandela ait organisé en 1961 la résistance armée au terrorisme racial des Blancs. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, quant à elle, ne doute pas que Mandela portera le jour de ses 90 ans une chemise Madiba, Madiba étant le nom clanique de Mandela. La chemise, l'ancien président sud-africain n'apparaît pratiquement jamais en public sans porter cette chemise coupée droit, boutonnée jusqu'au col et richement ornée de motifs africains. La chemise Madiba est devenue le symbole du premier chef d'État noir de l'Afrique du Sud et elle bat tous les records à l'exportation. La recherche de l'origine de la mode Mandela, poursuit le journal, mène dans le centre de Johannesburg. C'est ici que travaille Son Wambile Ndama, c'est comme ça qu'il s'appelle le couturier de Nelson Mandela, l'homme qui a inventé la chemise la plus célèbre d'Afrique du Sud. L'adresse de son entreprise ne ressemble pas aux encroix où s'écrit habituellement l'histoire de la mode. Le 65 Newgate Street est un bâtiment obscur, assez délabré. Mais grâce à son client le plus célèbre, l'ancien petit tailleur est devenu le couturier le couturier de célébrité du pays. Il habille aujourd'hui l'élite noire née après la fin de l'apartheid. Ça, c'est l'introduction de l'émission Afrique Plus avec Bruno qui me regarde d'un air assez fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va voir d'ici là, qu'est-ce qu'on vous a réservé, mesdames et messieurs. On écoute cette belle chanson introductive et on vous revient tout de suite avec 5 minutes en Afrique. Et on vous annonce le programme juste après.
Que me calo tu te mande la, tu la pa mette la gueule banna, tu la pète à moi. Oui, les grands montés mande la, oui, les grands montés, oui, à mon à moi. Que me calo tu te mande la, tu la pa mette la gueule banna, tu la pète à moi. Quelle est la dignité Mandela, quelle est la dignité, oui, à mon à moi. Quand même pour les remandela, non, tu l'as pas soufflé, tu la mets à moi. Quelle est la dignité Mandela, quelle est la dignité, oui, à mon à moi. Quand même pour les remandela, non, tu l'as pas soufflé, la mettre à moi. Quelle l'éternité Mandela, quelle l'éternité, oui, à mon à moi. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'armana qui s'est de la mettre à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité, oui, à mon amour? Même si t'as un cas de Mandela, déclare-moi quitter de la main à moi. Quelle est la dignité, Mandela? Quelle est la dignité, oui, à mon amour? Quand même pour les remandes de la note, il n'a pas souplé de la mettre à moi. Quelle est la dignité, Mandela? Quelle est la dignité, oui, à mon amour? À mon amour. Quand même pour les remandes de la note, il n'a pas souplé de la mettre à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité, oui, à mon amour?
La Cité Collégiale d'Ottawa répond à vos besoins pour accéder au marché du travail. C'est le seul collège de langue française de la région d'Ottawa et il offre plus de 80 programmes d'études. La majorité de ces programmes donnent la chance de faire des stages en milieu de travail. Vous venez de terminer vos études secondaires, vous voulez changer votre carrière ou vous êtes immigrante nouvellement arrivée? Faites votre demande d'admission dès septembre et courez la chance de gagner une bourse d'études de 1 000 $. Pour plus d'informations, composez le 613-742-2483, poste 2420.
Alors, 7h10, 5 minutes en Afrique. Bruno, c'est à toi.
Bienvenue à ceux qui viennent de se réveiller. Il ne se passe pas une semaine sans naufrage au large de la Méditerranée. Cette semaine, c'est donc au large de l'Italie qu'un bateau de fortune a fait naufrage. Les espoirs de plus de 70 candidats à l'immigration en provenance de l'Afrique se sont également retrouvés en pleine mer. La marine en aurait secouru 48, tandis que 20 sont portés disparus et que 3 sont désormais dans l'au-delà. Cette fois, le drame a eu lieu à une centaine de kilomètres de Lampedusa, en Italie. Rappelons que depuis le durcissement des lois européennes sur l'entrée des migrants et la régularisation des sans-papiers, nombreux sont ceux qui accroissent les risques pour arriver en Europe, la soi-disant terre promise où les désillusions sont vite au rendez-vous bien souvent. Côte d'Ivoire, confirmation de la date de la présidentielle, Laurent Gbagbo, le président de la République ivoirienne, a annoncé lundi, depuis Séguéla dans le centre-nord, que les élections présidentielles se tiendraient effectivement le 30 novembre. Les Ivoiriens doivent donc s'y préparer. Le scrutin initialement prévu pour 2005 a été reporté à maintes reprises. Rappelons-le, une fois n'est pas coutume. Soudan, l'actualité de la semaine que nous vous annoncions déjà la semaine dernière, Omar El-Béchir, président en exercice du Soudan, a bel et bien été inculpé pour génocide et crime de guerre pour son action au Darfour contre les populations, notamment Four, Massali et Zagawa. L'instruction, qui pourrait se traduire en acte d'inculpation, établie par le juge Moreno Ocampo, va maintenant être examinée par un panel de juges de la CPI qui ensuite décideront ou non d'une éventuelle inculpation. Dans son rapport, le juge Moreno Ocampo rappelle que le crime de génocide est un crime d'intention. L'organisation par Omar El-Béchir d'un programme d'élimination radicale de certaines populations d'Arfouri, en raison de leur ethnie notamment, serait un motif constitutif du crime extrême. Madagascar. Marc Ravalomanan a démis Gildas Lelidek, l'ambassadeur de France. Usant de ses prérogatives, le président malgache, se souvenant de la crise de succession lors de la victoire contre le protégé de Paris, rappelez-vous, Didier Ratsirak, Ravalomanan a donc décidé de ne pas accepter que Gildas Lelidek, qui fut en poste à Abidjan au moment des troubles, donc soit ambassadeur sur l'île de Madagascar. Plus qu'un saut d'humeur présidentielle, c'est surtout une façon de montrer une certaine indépendance, dirons-nous. Liberia, ce sont les policiers qui créent l'insécurité. Effectivement, après des décennies de guerre civile, pendant que le pays essaie de se reconstruire, la criminalité repart à la hausse. Les anciens combattants n'ont pas tous remis leurs armes. Le chômage bat des records. On en est à plus de 80% de la population active. Hélène Sirleaf Johnson a du pain sur la planche si elle veut redresser la situation du pays et recouvrer la confiance des investisseurs. Comme vous disait tout à l'heure mon ami qui est ici avec moi. Nelson Mandela a eu 90 ans. Eh bien, bon anniversaire à lui. Tchad, Soudan. El-Béchir veut reprendre les relations diplomatiques. C'était jeudi à Dakar que l'annonce a été faite. Cette semaine, c'était le lancement officiel de l'UPM également, l'Union pour la Méditerranée. Le moins que l'on puisse dire, c'est un projet assez flou et plus exactement un succès d'année puisqu'on a déjà vu la même chose avec le processus de Barcelone et puis d'autres choses, des petites modifications simplement. Bon, il y a peut-être un peu trop de brume à dissiper dans cette structure que le Sarko a initiée. Est-ce que par cette blague de mauvais goût, ces petits pays lèche-bottes de Sarko seront de retour au protectorat? En tout cas, il se dit dans l'antichambre du pouvoir que Bouteflika l'Algérien a troqué ce deal contre le soutien de Sarko à son troisième mandat. Vu la probité intellectuelle de Sarkozy, Bouteflika pourrait s'en mordre les doigts. Affaire à suivre. Au Sénégal, on commence à prendre la mesure de la crise creusée par la flambée des prix. On suggère que l'appareil d'État réduise son train de vie. Bonne chance à tous ceux qui espèrent un changement de ce côté-là. Revenons en Côte d'Ivoire avec le rapport qui a fait la une de Fraternité Matin, le rapport de la Banque mondiale sur le racket. Entre 95 et 150 milliards de dollars, enfin de francs CFA surtout, empochés par an, essentiellement par les militaires. Le général Mangou, chef d'état-major de l'armée, dit avoir pris la mesure et va lutter activement contre. Souhaitons qu'il soit plus efficace que contre les rebelles. Rappelez-vous un fameux jour de septembre. Merci d'avoir suivi ces quelques brèves de l'Afrique pour cette semaine.
Permis de conduire? L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878.
Jocelyn Elinor est maintenant un agent CAM Transfert. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-7878.
Il est 7h16 à l'autre monde. Vous écoutez CHUFM Afrique Plus. Nous avons 60 minutes pour être africains. Nous disons bonjour à monsieur Mushengeshi Katata qui est au nord de l'Allemagne depuis. Vous êtes en direct avec nous à Brême. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Viera.
Alors, comment vous allez? Comment va le nord de l'Allemagne là, comment va votre ville là? Vous êtes à Brême.
Oui, je suis à Brême. Oui.
Voilà. Alors,
comment va bien, comme on dit.
Nous, c'est l'après-midi chez vous, nous c'est vraiment le matin ici, c'est la journée se lève.
Oh là là.
Écoutez, avec votre permission, on écoute ça, c'est un hommage, un discours de quelqu'un qui a disparu, Aimé Césaire, qui fait un petit speech à propos de Nelson Mandela. Donc si vous permettez, on écoute ça et on vient tout de suite avec le sujet du jour.
Nelson Mandela, c'est parce qu'à nos yeux, aucun homme, de par le monde d'aujourd'hui, ne symbolise mieux que lui, avec une telle grandeur, avec une telle tranquille intransigeance, je dirais pour l'avoir approché de près, avec une telle sérénité et une telle grandeur, avec une telle indomptable rigueur de la fidélité, la volonté de l'homme noir, mais j'ai tort de dire de l'homme noir, par-delà toutes les questions ethniques ou raciales, la volonté de l'homme tout court d'en finir avec tout ce qu'il reste de barbarie dans le monde pour accéder à un stade de civilisation supérieure où l'on pourra enfin, et sans abusive hyperbole, parler de l'humanisation de l'humanité. Mais le temps presse. Et si j'avais à citer une seule phrase de Nelson Mandela, car je ne veux pas allonger ce prologue, ce serait celle-ci, celle qu'il a prononcée lorsque, prisonnier, le gouvernement sud-africain lui offrait sa libération contre la promesse d'une renonciation à la lutte politique. La voici cette phrase, « Je ne suis pas prêt à vendre mon droit de naissance. Et je ne suis pas prêt à vendre le droit de naissance du peuple pour être libre. La liberté du peuple et la mienne ne peuvent être séparées. Je reviendrai.
Voilà, donc c'était Aimé Césaire, le feu Aimé Césaire, qui rendait un vibrant hommage à Nelson Mandela, qui a fêté ses 90 ans hier. Luis Moreno Campo, le procureur de la CPI, demande notamment à son inculpation pour génocide. Et voilà, c'est la Tech Zeitung, l'accusation de génocide et le président soudanais El Béchir pour... on ne sait pas, on se demande de quand est-ce que ce monsieur sera arrêté et il faut encore attendre. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle nous vous avons, monsieur Obusengechi Katata. Et la première question que nous allons vous poser, c'est de savoir à quelle lecture faites-vous du mandat d'arrêt lancé par la CPI contre le président soudanais El Béchir, monsieur Katata.
Oui, enfin, pourrait-on dire, la Cour pénale de justice internationale prend ses responsabilités et vient au secours de pauvres Soudanais du Darfour depuis plusieurs années violentés publiquement devant des Africains impuissants ou consentants, mais aussi devant une communauté internationale exacerbée et à bout de patience, il faut le dire.
À partir du moment où la plupart des pays du monde où se passe ce genre de crime ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, à quoi bon créer ce monstre? C'est ma première question. Où la Cour pénale internationale est qui pour dire la loi? Et quelle loi?
Mais il faut peut-être des précisions au départ. D'abord, depuis le 1er juin 2008, 106 pays sont états partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 30 sont membres du groupe des États d'Afrique, 13 des États d'Asie, 16 des États d'Europe orientale, 22 des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du groupe des États d'Europe occidentale et autres États. La Cour pénale internationale, ou CPI, est une cour indépendante permanente devant laquelle sont jugées les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La CPI est saisie en dernier recours. Elle n'intervient pas lorsqu'une affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites dans un système juridique national, sauf si ces procédures ne sont pas menées de bonne foi, par exemple, si elles ont été engagées officiellement uniquement pour satisfaire une personne à sa responsabilité, pour soustraire une personne à sa responsabilité pénale. En outre, la CPI ne juge que les personnes accusées des crimes les plus graves. Dans toutes ses activités, la CPI respecte les normes strictes d'impartialité et d'équité. Ceci dit, et même que le Soudan n'a pas signé le traité de Rome ou reconnu la CPI, celle-ci, dans l'intérêt public et de l'ordre international, a bien le droit d'émettre un mandat d'arrêt sur un citoyen soudanais si les charges retenues contre lui portent le caractère génocidaire de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il ne faut donc pas se faire d'illusions. El Béchir ira bien en prison d'une façon ou d'une autre. Sa vie en liberté est comptée. Président ou pas, il aura à répondre des charges retenues et de graves retenues contre lui.
En lisant la liste de crimes inculqués au président soudanais, on retrouve les viols, exécutions sommaires de prisonniers, des enfants brûlés, des actes de torture par la police et l'armée, des crimes similaires se trouvant dans plusieurs rapports de l'ONU et ONG de la République démocratique, la République démocratique du Congo, par exemple. Pourquoi les arguments utilisés au Soudan ne sont pas reconnus en République démocratique du Congo, par exemple? Autrement dit, quand la CPI va-t-elle utiliser les différents rapports pour protéger la vie des Congolais et Congolaises?
Ça, c'est question de priorité, dirais-je, ou d'évidence de preuve. Tout le monde sait qu'il s'est passé des choses troubles et criminelles en République les ONG en témoignent. Seulement, les preuves ne sont pas aussi flagrantes qu'au Soudan. Le monde entier est quasi témoin de ces atrocités, jour pour jour. Si ce n'est pas un affront et un défi injurieux pour notre sens de justice et d'équité à tous.
S'il y a une chose dont tout le monde est d'accord, c'est de faire régner la justice. Mais la justice doit-elle être occidentale? En d'autres termes, pourquoi certains pays veulent-ils à tout prix imposer leurs valeurs dites universelles aux autres?
Notons dès le départ une chose. Personne n'a obligé les 106 pays signataires du traité de Rome de le faire. Ils l'ont fait en toute souveraineté. Autre chose, le droit international n'est pas un droit occidental. C'est un droit commun à plusieurs pays, à tous, si nous allons à l'extrême. Sans cette convention de bon sens, plusieurs pays, nous mettraient d'accord sur l'observation de certaines règles, et on a la même autorité partout, la vie internationale serait compliquée. Je comprends que les Africains ou même certains pays criminels ne veulent pas se cacher derrière la constatation de ces valeurs universelles. Les Africains, parce qu'ils le sont, et cela même sur leur propre territoire, incapables de faire respecter la loi, ou certaines valeurs humaines primaires. Mais faut-il que, pour cela, la barbarie et l'injustice règnent en Afrique pendant que les Africains eux-mêmes, par fausse fierté ou incompétence, ne sauraient s'en découdre? Curieux. N'est-ce pas? Les Africains veulent le progrès, rouler en voiture occidentale, voler dans les avions, employer les technologies et les armes étrangères. Mais ils ne veulent pas progresser mentalement ou culturellement au niveau moral et éthique des droits humains. N'est-ce pas dangereux? On mettrait des armes dangereuses ou des technologies tout aussi dangereuses dans leurs utilisations entre les mains de gens sans foi ni loi et par-dessus tout immoraux. Nous ne pouvons pas prendre ce risque gratuit. Ce serait, à mon sens, irresponsable et injuste à l'égard de ceux qui en souffriraient plus tard. On le voit d'ailleurs dans l'affaire de Darfour.
Dites-nous, mon cinquième point, si la condamnation du Soudan était faite par un organe judiciaire essentiellement africain, selon vous, cette condamnation aurait-elle peut-être plus d'effet? Le premier point, ou d'une autre manière, l'Afrique doit-elle faire l'analyse de ses propres erreurs si le continent veut sortir de son marasme?
Ah, ça, la justice, espérons-le, est justice au nord ou au sud, en Afrique comme en Europe ou en Asie. Maintenant, qu'est-ce qui disqualifie l'Afrique dans cette affaire du Soudan? Oui, pourquoi pas l'Afrique comme lieu de jugement et de juridiction? Mais parce que ce délinquant El-Bashir est président du Soudan. Et c'est dire. Et ici, vu la faiblesse des institutions juridiques en Afrique, la pauvreté et la corruption qui règnent sur ce continent, que ce délinquant a autant les moyens qu'il aurait de partisans capables de truquer l'issue et le cours de ce procès. Autre chose. Tous les présidents et les hauts fonctionnaires de l'Union africaine, du Soudan, ou des autres pays africains sont passés devant les cris et le désespoir des victimes d'El-Bashir. Sans pour autant les défendre, protester ou élever la voix. On se demande si toute l'Afrique est complice de ces crimes ou si tous les Africains étaient devenus à ce point immoraux qu'ils ne savaient plus distinguer le droit, la justice, de la pire des crapules criminelles. Devant tous ces arguments, la justice ne peut, dans l'intérêt des Africains eux-mêmes, qu'être faite par la communauté internationale qui est mieux lotie et plus efficace pour en garantir son intégrité. Maintenant, à la deuxième partie de votre question, M. Vienner, je dirais qu'effectivement l'Afrique doit retrouver le plus rapidement que possible sa souveraineté économique. Parce que celle-ci permettrait notamment de lutter contre la corruption, la gabegie financière et ainsi l'élaboration des valeurs éthiques et morales, sociales et culturelles, représentant le véritable fondement de tout état de droit et de liberté. Cette évidence, et combien logique conclusion, ne semble pourtant pas efficace pour beaucoup de gouvernements africains qui se sont honteusement installés dans la dépendance à l'aide financière étrangère, comme le désir ou le leur suggère leurs prédateurs et exploiteurs économiques étrangers, naturellement pour mieux les assujettir. Or, cette attitude ne produit ni liberté, ni indépendance. Par ailleurs, elle détruit inexorablement les valeurs sociales profondes des pays enfermés ou logés à la pauvreté. Il faut savoir ce qu'on veut, où on veut s'en sortir, et pour cela il faut faire des efforts et se libérer de la dépendance, où on se laisse pervertir et embourber à la médiocrité incapable et mendiante. Mais dans ce dernier cas, il est inutile de prétendre à la liberté, à l'indépendance ou à la quelque vertu que ce soit.
Si vous permettez, monsieur Moussengeshi, on fait juste une courte pause publicitaire et on continue tout de suite notre entrevue. Je vous rappelle que nous écoutons monsieur Moussengeshi Katata qui anime le blog realizance.africblog.com. Et voilà, on fait juste une courte pause publicitaire et on continue notre entrevue avec le sixième point.
Vous déménagez ou vous voulez envoyer de la marchandise? WIB Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique.
WIB offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur WIB Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381.
Voilà, on revient avec vous, monsieur Moussengeshi Katata. On vous rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Brême, en Allemagne. Peut-on dire du droit international qu'il ne s'applique qu'au régime des pays pauvres et de nature faible?
Oui, on peut certes avoir cette impression, surtout quand on sait que les puissants États-Unis ne livrent pas leurs citoyens à cet honorable cours. L'affaire Kissinger est une preuve flagrante. D'autre part, on se demande si l'agression gratuite envers l'Irak ou les tortures aux prisonniers faites à Guantanamo et à Abu Ghraib ne sont pas des flagrantes méprises à la Convention de Genève, au respect de l'intégrité ou le respect des droits humains tout court. On sait aussi que les forces armées suédoises sous l'uniforme de l'ONU ont fermé les yeux sur les massacres de 7000 musulmans au Kosovo par les Serbes. Oui. On parle beaucoup de justice de vainqueurs ou justice de pays riches. Hélas, la justice n'est plus gratuite et ne l'a jamais été. Quant aux vainqueurs, il faut s'y faire. Il n'existe pas de justice de vaincus. Et malgré tout, il faut avoir patience et encourager le travail de cette institution. Les choses ne vont pas en rester éternellement là. Tôt ou tard, tous les pays qui aujourd'hui, sous le prétexte fallacieux ou juste de préserver leur souveraineté, reconnaîtront que s'ils tiennent à être respectés, ils doivent aussi respecter les règles et l'objectivité de la communauté internationale. Après tout, qu'ils le veulent ou non, ils en font partie. Je suis persuadé alors que les crimes commis par n'importe quel citoyen de n'importe quel pays seront un jour, à défaut de jugement adéquat dans leur pays d'origine, jugé équitablement par la CPI.
Vous dites dans un de vos articles des dirigeants africains qu'ils sont des pseudo-présidents et généraux de pacotille. Et selon vous, pourquoi ces derniers assassinent et maltraitent ceux et celles qu'ils prétendent représenter et défendre?
Mais c'est clair. C'est justement là toute l'hérésie qui les disqualifie tous. Ils protègent les intérêts et les prérogatives des étrangers que les intérêts des leurs, de leurs institutions ou de leurs citoyens. Plus très on ne peut plus. Et beaucoup d'Africains connaissent cette mentalité depuis l'aéroport de leur pays où les étrangers sont traités en œufs précieux, tandis que sont malmenés et soumis à des vicissitudes écœurantes. Ou alors, les meilleures écoles en Afrique actuellement sont les écoles consulaires américaines, belges, français, réellement d'opprimer et de piller réellement le peuple sans régler aucun de ses problèmes ou même créer l'emploi pour le redressement ou la relance économique. On est en droit de se demander, en effet, qui ils servent, ces incapables, et qu'ils ne parlent d'un pays où la pauvreté, les maladies infantiles, le désordre et les rébellions militaires ou civiles étaient à l'ordre du jour.
Comme mon dernier point, comme dit M. Chaka Bantu dans votre blog, et je le cite, l'histoire sociale de n'importe quel pays du monde prouve que seule la pleine revalorisation de la responsabilité des exclus par rapport à eux-mêmes, à leur avenir et leurs attentes donnent des résultats durables et efficaces. Quel avenir pour le Soudan et la sous-région demain si Bachir est hors jeu?
Brian, n'est-ce pas, c'est que chacun a dit là-dessus. Il a tout à fait raison. Parce que c'est lorsque les plus pauvres ont mangé à leur faim, qu'ils ont élevé leurs enfants dignement en développant toutes leurs qualités, et que ces ouvriers ou paysans fassent participer à la jouissance de la richesse sociale et de ses nombreux avantages, qu'une société peut dire qu'elle a rempli ses devoirs envers les siens. Les riches, eux, ils n'ont pas besoin de ni d'aide. Quand ils en ont besoin, ils s'organisent pour se les approprier de plein droit ou pas. Mais pour l'enjeu social, ou son jugement critique, c'est le bas de l'échelle qui est le plus important.
Mm-hmm.
Quand celui-ci est assagi et riche, cela veut dire évidemment que la société entière est riche et aisée. Comme quand cette classe sociale vit dans le manque et la pauvreté, on peut dire que la société, même si elle est riche, a des problèmes imminents à résoudre. Pour ce qui est de Béchir, n'exagérons pas la valeur de sa petite personne criminelle pour l'Afrique ou pour les pays limitrophes. Un homme politique qui croit qu'il doit s'imposer auprès des siens ou auprès de ses voisins par le crime et par la terreur est si bas qu'il ne mérite pas qu'on se rappelle de lui. En Afrique, on a trop tendance à déifier trop rapidement quelques malfrats politiques parce qu'ils sont tout simplement au pouvoir. Il serait peut-être temps de juger et de respecter ceux qui gouvernent en Afrique par les résultats qu'ils obtiennent ou engendrent, plutôt que de croire que n'importe quel idiot qui s'est frayé les couilles jusqu'au pouvoir est digne d'admiration, même si notre pain reste noir, nos rêves étriqués et l'avenir de nos enfants sombre et incertain. Faut pas charrier. L'Afrique et ses peuples sont immortels. Elle ne déchire pas. Ne l'oublions pas. Pour ma part, c'est un cancre sans lendemain. Il devrait faire sa valise. Ce juge l'attend.
Voilà, monsieur. Voilà, monsieur Bougegeji Katata. Écoutez, c'est toute l'Afrique qui vous remercie de votre contribution et de votre collaboration à l'émission africaine. Je ne sais pas si vous avez un mot. On vous donne 10 secondes pour le dire aux Africains, aux Africaines et aux Canadiens qui vous écoutent alors.
Merci beaucoup. Je vais profiter de dire ceci aux Canadiens, aux Africains qui sont au Canada, au peuple canadien en particulier, aux francophones, aux anglophones. Nous parlons aujourd'hui du Darfour. Nous parlons aujourd'hui du Darfour. C'est un problème qui touche n'importe quel être humain de bonne foi, où qu'il soit. Et j'espère, je souhaite, et je suis persuadé que les gens de bonne foi du monde, et surtout ceux du Canada, qui est un pays tout de même hautement civilisé, que la justice soit faite à ces gens et que les sévices et les crimes dont ils ont à supporter le prix et devant le monde entier, que ces crimes prennent fin. La liberté est une chose précieuse pour nous tous.
Voilà. Écoutez, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous remercie, monsieur Mushengeshi Katata, de votre collaboration à l'émission africaine, et nous restons en contact. Bon après-midi à Brême, en Allemagne, et nous sommes en contact tout le temps.
Merci,
monsieur. Je vous remercie infiniment.
Merci.
Au revoir.
Je ne suis pas historien, mais pour la petite histoire,
Retenons que les massacres du sang, oui, sont restés impunis. Ceux du guébier aussi, un crime impuni se reproduit toujours. Nous avons comme preuve le charnier de Yop. Nous avons comme preuve le charnier de Yop.
Ça dit 19 juillet,
Haïti en fête.
Festival Panouan, Blaye, sous plage Petrialène, dans Orléans. Depuis, il ne fait peng, yon chai, activité pour toute famille, non ambiance rouloloy, blague, show de danse, jeux, structure gonflable pour enfants, activité sportive, présentation des candidates de Miss Orawa Afro Caribbean Team. Et musique, des artistes et des groupes musicaux comme David, Charles Oscar, Star 613, Tafla, prestation des meilleurs DJ d'Ottawa, dont DJ Fleck et DJ Ronnie. Et ça dit 19 juillet, de 13h à 21h, contribution à l'avance, $20 pour adultes, $5 pour enfants. Une initiative de Combi Ottawa, co-présentée par CH. UFM et la cité collégiale.
Voilà, il est 7h41 à notre monde. Il est l'émission est nationale, je vois. De l'Allemagne, nous allons où là, Bruno?
On va partir d'abord au Burkina Faso.
Nous sommes au Burkina Faso.
Donc, on va avoir une petite interview avec Camille Karim Sama d'Issam Skaledja, né en Côte d'Ivoire. Un artiste.
Mais là, j'ai l'impression qu'ils veulent lutter contre les pauvres. C'est la situation à l'université. Quand il se passe, il n'y a pas de place pour les étudiants. Certains sont obligés d'aller payer les chaises pliables là, de pouvoir s'asseoir et de passer à terre et puis tout ça.
Issam Skaledja, vous êtes avec nous en direct depuis. Vous êtes où? À Ouagadougou?
Oui, je suis à Ouaga. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour.
Nous avons pratiquement la même heure. Quelle heure? Il est 11h à Ouaga.
Oui, il est 11h actuellement à Ouaga. Oh. Et il y a une belle pluie qui vient de tomber aussi. Ça veut dire que le temps, il est cool, quoi.
Parfait. Donc, on vous reçoit comme si vous étiez à notre porte ici. Ça, c'est la technologie, elle est impeccable. Alors, Bruno, on y va.
Dites-nous brièvement le Dja. Qui êtes-vous et comment vous vous définiriez?
Ben, Sam Skaledja, juste un petit peintre dans son coin, un peintre musical, qui essaie à sa façon de faire une peinture de sa société, la société dans laquelle il vit. Je suis auteur, compositeur, interprète, et à côté de ça, j'anime une émission de reggae sur une radio à Ouaga qui s'appelle Ouaga FM. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, un peu militant aussi, voilà.
Mais sur le plan musical, c'est quoi vos sensibilités?
Ben, mes sensibilités, c'est tout ce qui a comme bonne vibration. C'est vrai que aujourd'hui, dans mon entourage, on me pose très souvent la question de savoir est-ce que j'écoute autre musique en dehors du reggae. Ben, moi, j'aime bien Alifa Katouré, j'aime écouter Don William, j'aime écouter Francis Cabrel. En plus du reggae que j'écoute, j'aime écouter des chansons salsa. Et je m'inspire de presque tout ce qui a comme bonne vibration dans la musique.
Voilà, si vous permettez, on écoute juste votre chanson qui est en train de passer en fond sonore et puis vous allez nous l'expliquer en fait. Hein?
Ok.
Ne quittez pas.
Rasta au pays de ce bouquin, tout est. On construit des routes, des ponts, des écoles qui font de moi et des gringoles. Et on trouve ça normal. Hey man, passe tout bête.
Et tout bête.
Voilà. Alors, votre commentaire, vous parlez de quoi dans cette chanson?
Ben, c'est une chanson dans laquelle j'essaie de décrire un peu la situation globale sur le plan politique, sur le plan social aujourd'hui en Afrique. C'est vrai, on est dans un contexte dit démocratique, mais la critique. On refuse qu'on fasse des remarques par rapport à la façon de gérer, c'est-à-dire par rapport à la gouvernance un peu en Afrique.
Mmh.
On a de plus en plus du laxisme, de la médiocrité qui est encouragée. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste, on se dit que c'est des choses qu'il faut arrêter. Quand on se retrouve aujourd'hui dans une situation de vie chère généralisée, alors qu'on a eu des présidents comme Thomas Sankara qui, à son temps, avait fait la prophétie, en quelque sorte, quand il disait aux Burkinabés de produire ce qu'on consomme et de consommer ce qu'on contrôle. Et on ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, on est des pays africains qui se retrouvent à importer du riz de Thaïlande, de je sais d'où. Pourtant, nous avons aujourd'hui des barrages sur place ici qui peuvent produire du riz pour nourrir la population en excès. Et c'est des politiques qu'on ne comprend pas. Et les examens, les concours sont entachés de fraude. On trouve ça normal. Les journalistes qui veulent critiquer un peu les pouvoirs en place sont tout de suite sous la pression, ou bien ils sont corrompus, ou bien il y en a qui malheureusement sont assassinés comme ça l'a été pour Norbert Zongo.
Voilà.
Donc c'est des situations que j'essaie de décrire dans cette chanson. Voilà, le titre, il est un peu ironique, mais c'est ce qu'on veut nous imposer, qu'on ne dise pas de façon directe les choses, mais je dis aujourd'hui, il faut arrêter de parler en parabole, il faut dire les choses de façon directe pour que les gens comprennent. Rasta au pays des merveilles, c'est ça aujourd'hui.
Rasta au pays des merveilles, merci de l'explication. Alors, la prochaine question, c'est Bruno qui vous la pose.
Donc, dites-nous, ce qui vous motive à lutter comme ça, à vous investir tant, c'est quoi vraiment le moteur, le leitmotiv?
Ben, moi, ce qui me guide, c'est que j'ai espoir en l'Afrique. Je suis un afro-optimiste, voilà, parce que on a tout fait pour nous faire croire que, voilà, c'est un continent maudit. On a des dirigeants qui sont là pour nous faire croire que réellement, on ne peut pas décoller. Quand un chef d'État africain se retrouve milliardaire, c'est-à-dire plus riche que son pays, il y a des questions qu'on se pose. Alors, moi, je dis aujourd'hui, il faut que la jeunesse s'organise. Il faut que cette jeunesse-là pose les problèmes, arrive à faire un diagnostic et arrive à trouver la solution qu'il faut pour remédier à toutes ces galères auxquelles on est confronté aujourd'hui en tant que jeunes Africains. Quand je vois des frères aujourd'hui prendre le risque d'aller mourir dans la mer juste parce qu'on veut fuir l'Afrique pour aller en Europe, je dis, il y a des questions qu'on doit se poser. Et on se rend compte que ben, tout le monde croise les bras. Les seules personnes qui en parlent, c'est les médias européens. Et c'est toujours, tant de jeunes frères qui sont allés mourir dans la mer. Et quand on voit que même des femmes avec leurs bébés sont prêts à traverser la mer, à prendre des risques, mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un blocage dans l'esprit des jeunes.
Mmh.
Pourtant, sur place, il y a la possibilité de créer de l'emploi pour les jeunes. Il y a la possibilité de leur donner de l'espoir. Mais on a l'impression que l'avenir de la jeunesse se retrouve derrière elle. Alors donc moi je me mets dans une logique pour dire que il faut espérer, il faut qu'on ait la force de croire que on peut changer les choses en Afrique.
Tout à fait. Donc voilà. et pour terminer, parce que c'est vraiment tout le temps qui nous est parti, on vous rappelle que nous sommes en communication en direct. Vous êtes depuis à Ouagadougou, nous sommes avec Sams Le Dia. Sams Kaloudia,
oui.
C'est ça?
Oui.
Voilà. Alors,
yeah, Sams Kaloudia.
Voilà, et nous sommes en direct avec vous depuis, vous êtes à Ouagadougou. Et alors, yeah. Nous sommes à la rubrique, c'est vous qui le dites. Et on va vous poser une seule question. Selon vous,
oui.
les intellectuels africains doivent-ils vivre en Afrique ou en Occident?
Non, mais moi je dis, je le dis dans la chanson Rasta au pays des merveilles, les intellectuels sont réduits au silence ou obligés de retourner leur veste. Aujourd'hui, c'est le drame de l'Afrique aujourd'hui. On est un médecin, par exemple, au Burkina Faso, on n'a peut-être pas 200 000 francs CFA par mois pour vivre. Mais quand on vous propose mieux ailleurs, ben vous partez.
Vous partez, c'est vrai.
Et c'est pratiquement la même chose. Et même nos dirigeants aujourd'hui, est-ce qu'ils investissent en Afrique? Après avoir détourné les sous en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On les place en Europe.
Tout à fait.
Or, l'argent doit rester en Afrique pour produire. Alors donc, moi, je dis, il faut pas, je ne peux pas en vouloir à des intellectuels qui fuient l'Afrique parce que ce qu'on nous a proposé comme bonne gouvernance n'est pas une réalité aujourd'hui. Il faut pas se le cacher. Et je crains fort que le cycle des coups d'État et des rébellions ne revienne en Afrique, quoi.
Voilà.
C'est ça la grosse crève pour moi aujourd'hui. Et donc, c'est vrai, ceux-là qui sont partis de l'Afrique, qui se retrouvent aujourd'hui dans de bonnes conditions, ben, s'ils peuvent se mettre en réseau, s'ils peuvent s'organiser et former des groupes de pression pour pouvoir intervenir auprès de l'Union européenne ou voilà, des puissances occidentales en général, pour que ces derniers puissent mettre la pression sur nos dirigeants en Afrique pour qu'on puisse en sortir. Sinon, ben, c'est compliqué. On est pessimiste quelque part, mais je dis, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de rester optimiste et de se dire qu'on peut changer les choses véritablement.
Voilà, donc merci infiniment, Sam Skaludia. Je ne sais pas, Bruno, tu... voilà, donc
on garde le contact.
On vous remercie de ce direct comme ça. Vous nous avez apporté le vent chaud de l'Afrique et ça nous fait vraiment plaisir. On reste en contact et on se reparle. Bon après-midi à Ouagadougou.
Merci à vous et que Dieu nous donne toujours les bonnes inspirations pour avancer dans le combat.
C'est, one love, les gars. C'est lui qui est avec nous, c'est vrai. Allez, au revoir.
Yeah, man.
Bye bye.
Yeah, man. Yeah, one love.
Watch this, man. Sa force, sa détourne, sa vie, les caisses en toute impunité.
Matrix Santé recrute présentement des infirmières pour une variété de postes à temps plein et à temps partiel à Ottawa et Gatineau. Nous avons des opportunités dans les secteurs suivants: médecine, chirurgie, urgence, santé mentale et aussi pour le centre d'appel Info Santé. Nos salaires sont très compétitifs et commencent à 45$ de l'heure. Veuillez nous contacter au 613-627-4115 ou visiter notre site web à matrixsanté.com.
Le plus multiculturel de la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 boulevard Grébert, à Gatineau. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim ont un tour du monde tropical à vous donner la chair. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compas, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé, décalé, zaiko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 boulevard Grébert, à Gatineau.
Sur tout le continent, du Cap à la Méditerranée, il souffle comme l'Harmattan. Les patrons paniquent, les colons sont aux abois, le peuple revendique, il se bat pour ses droits. Le vent de liberté souffle sur tout le continent.
Voilà, le vent de liberté souffle sur le continent. Il est 7h53. J'ai même pas envie de dire le temps parce que ça passe très très vite. C'est incroyable. De l'Allemagne, nous sommes partis en Afrique. De l'Afrique, nous sommes revenus à Ottawa. C'était un voyage.
Mais toujours en Afrique.
Toujours en Afrique. Toujours autour de l'Afrique. Bonjour, monsieur Kassongo. Bienvenue à l'émission africaine.
Bonjour, Jean-Marie. Bonjour, Bruno. Comment
ça va? Bienvenue.
Voilà, donc, merci de l'invitation. Hein.
Alors, là, on écoute d'abord cette chanson-là. On va finir l'émission avec beaucoup d'artistes. C'est l'exclusivité. Hein.
Pour les travailleurs surexploités. Pour les humbles, pour les mendiants, assoiffés de justice, au fond de leur âme en feu, et bientôt leurs milices briseront le cercle vicieux.
Rythme africain, Daniel Kassongo et le village. Percussion, danse, aérobie, cours, concert. Ça, c'est en exclusivité ce qu'on écoute là.
Et c'est tout à fait ça. Alors, bon, on est là comme notre frère qui nous a appelé de Ouaga,
oui.
Pour apporter notre petite pierre à la construction, à la reconstruction et à la renaissance des Africains et des Africaines. Et qui sont non seulement en Afrique, mais aussi à Ottawa, à Gatineau, un peu partout. Repartir, renaître, en fait, c'est notre... À chacun, d'apporter sa pierre. Et c'est pour ça, nous avec la guitare ou avec le micro comme vous, mm-hmm. et, ou la plume, n'importe quoi, mais ou avec les enfants. Mm-hmm. Et les Mexicains, ils disent quand ils vont aux États-Unis, c'est leur bombe atomique, c'est la démographie. Mm-hmm. Voilà, à chacun d'apporter sa pierre à sa façon.
Mm-hmm. Alors donc, vous appelez le rythme africain, Daniel Kasongo, et le village.
Voilà, donc, le village, c'est que c'est global, c'est inclusif. Alors, c'est le sens aussi africain, en fait, mm-hmm. d'inclure tout le monde. On a des handicapés, si on peut dire ça, des femmes, des autochtones. Donc c'est un village africain dans le sens, parce que c'est l'Afrique qui a donné naissance à l'humanité, il faut le dire. Mm-hmm. Le rythme aussi vient d'Afrique. Alors le village et Daniel Kasongo, qui enfin c'est le nom du groupe, Daniel oui. Kasongo et le village, on peut nous trouver sur, on a un point de chute, oui. Sur la rue Rideau, où on fait des pratiques presque tous les soirs,
oui.
mais surtout le mercredi soir le samedi soir.
Et le samedi, donc comme si samedi soir, là, vous seriez en train de
absolument pratiquer. Et puis bon, on est à peu près 12 musiciens. Là, c'est juste, je suis en solo tout seul.
Mm-hmm.
Et on aimerait surtout que ceux qui veulent ou celles qui veulent venir danser, envoyer les enfants, venir avec les enfants pour des contes africains et tout ça, apprendre des percussions, apprendre de la guitare, des instruments africains, etc. Donc c'est notre façon de contribuer à la culture africaine.
Mm-hmm. Question, Bruno.
Non, pas question. AfriConnect, 613-875-2225. 613-875-2225 pour AfriConnect. Ou alors, on peut vous contacter par un courriel. Sadi Daniel, donc SADIDANIEL, @hotmail.com. Sadi Daniel, @hotmail.com. Voilà. Ou alors AfriConnect, tout simplement.
Tout à fait. Et puis, moi, ce qui me frappe dans le groupe, c'est que c'est vraiment multiculturel. C'est tous les âges, c'est toutes les races. Et puis, c'est coloré.
C'est inclusif, en fait.
C'est inclusif, vraiment. Oui, ça représente un peu c'est l'image du monde, mais en même temps l'image de ce qu'on vit au Canada.
Et surtout, mais toujours avec l'âme africaine.
Oui.
Parce que c'est l'Afrique qui a donné naissance à l'humanité.
Ah,
en
ça,
fait.
C'est impératif.
Oui, c'est ça. C'est important pour nous. Alors, on donne aussi des cours des langues, langue africaine, des cours des cultures africaines. Alors, le plus important, c'est que ce 9 août qui vient, le samedi 9 août, c'est la journée africaine au musée des civilisations.
Ah, ce serait mon anniversaire. Hein.
Ah, le 9 août. Oui. Alors, c'est un cadeau pour toi.
Ah.
Alors, là, on t'invite. Alors, les enfants, c'est la journée des enfants. Et je vais donner aussi, enfin, il y aura des contes africains, la bouffe, des filets de monde et tout ça. Mais surtout, Daniel Kasongo et le village se produisent à 17h. Mais la journée commence à 10h30.
Oui.
Avec des contes. Il y aura aussi un musée virtuel africain. Imaginez, musée virtuel avec les masques et tout ça.
Avec les contes et tout ça.
C'est toute une journée. Amener les enfants, c'est spécialement pour les enfants, mais il y a la bouffe, les tresses et tout ça. Tous. En fait, on a aussi une exposition d'art, d'art africain, en fait.
Voilà.
C'est
vraiment, oui. Donc, avant de parce que vous êtes là avec votre guitare, donc on fait quand même un acapella.
Ici, je reprends un petit morceau de Mwenda Obaye, qui est un grand frère.
Et tout à fait, allez-y.
Mama na kwenda na etumba Mao na kwenda na eo Si wende umambie mwenye kingo yao Panga wende umambie ende akalale kwao Kana muke kasipo na wana tumba Ni kama kinga ya sipo na lampio Si wende umambie mwenye kingo ya upanga Wende umambie ende akalale kwavo Mao nakwenda na yeo Mao nakwenda na yeo Si wende umambie mwenye kingo ya upanga Wende umambie ende akalale kwavo
Voilà, c'était Daniel.
Juste un extrait.
C'est Daniel Kasongo et le village. Écoutez, l'invitation qu'on a faite pour vous était très courte. Si vous voulez, on prend rendez-vous tout de suite pour la semaine prochaine.
On va
et
revenir.
On fait un gros plan Daniel Kasongo et le village.
Certainement.
À l'émission africaine ici à Afrique Plus.
Allez, merci Jean-Marie, merci Bruno de votre travail.
Bienvenue. Si vous avez aimé.
Voilà, on n'a pas fini, c'est le générique, mais c'est vrai. C'est terminé. Hein? Allez, vas-y, Bruno.
Si vous avez aimé,
allez le dire aux autres.
Si vous n'avez pas aimé, continuez à nous suivre, vous allez aimer bientôt. Info@commercialafriqueplus.net. Info@commercialafriqueplus.net.